Vous écoutez One Health, le podcast animé par les étudiants du Master en marketing pharmaceutique et technologie de santé et leurs nombreux invités sous l'égide de la Fondation Université Paris-Saclay, chaire Beyond the Pill. Préparez-vous à voyager au cœur du monde du One Health, où la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale s'entremêlent.
Bonjour et bienvenue à tous dans la série de podcasts qui explore à travers l'approche One Health les liens entre la triade santé humaine, santé animale et santé environnementale, toutes indissociables. En effet, une seule santé pour tous invite à penser la santé autrement. Bienvenue dans notre épisode, La santé pour tous, parlons papillomavirus. Je suis Margot Lager, accompagnée de Constance Martin et Claire Lochelongue. Nous sommes toutes trois étudiantes en sixième et dernière année de pharmacie. Nous aborderons la question de la santé des femmes et des hommes et la prévention des pathologies causées par les papillomavirus. Nous avons le plaisir d'accueillir une experte du domaine qui va nous éclairer sur les enjeux de santé publique liés à cette thématique. Professeure Cécile Badoual, anatomopathologiste à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris, nous fait l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui. Bienvenue Cécile. Engagée, concernée et passionnée, vous êtes une femme de santé impliquée dans de nombreuses initiatives, telles que la prise en charge des pathologies induites par les papillomavirus, mais aussi vous avez été vice-présidente de formation de l'Université Paris-Cité. Vous avez donc à cœur de communiquer auprès des patients et de la population générale afin de déstigmatiser les idées reçues.
Merci Margot, et un grand merci à Cécile de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Effectivement, nous sommes ici réunis pour parler de la santé des femmes et des hommes à travers l'importance de la prévention des pathologies causées par les papillomavirus. Car oui, on parle des papillomavirus. Il y en a plus de 200 types. Ces virus sont très répandus et peuvent être à l'origine de différentes pathologies, comme des cancers chez la femme comme chez l'homme. Au programme, quelles sont les idées reçues véhiculées par les Français? Qui est touché? Vaccination et sexualité sont-ils liés? L'accès au dépistage est-il le même partout dans le monde? Nous tenterons de répondre à ces questions, puis parlerons des différents moyens de prévention qui existent à l'heure actuelle. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous le professeur Cécile Badoual pour répondre à nos interrogations.
Merci Constance et bonjour à toutes. Je m'appelle Claire et dans cette première thématique, nous allons revenir sur les bases et en profiter pour définir le papillomavirus humain qu'on appelle aussi HPV. Durant mes études de pharmacie, j'ai appris que l'HPV est un virus sexuellement transmissible, ce qui en fait d'ailleurs un sujet tabou. Pourtant, c'est une des IST les plus fréquentes, car 70 à 80% des hommes et des femmes sexuellement actifs rencontreront un HPV au moins une fois au cours de leur vie. Ce virus peut avoir des conséquences importantes, car comme on le sait tous, ou presque, il a une corrélation avec le cancer du col de l'utérus. J'ai lu qu'on compte environ 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus en France chaque année, et qu'il est à l'origine d'un millier de décès par an. Vous avez fait le calcul, dans un cas sur trois, il est mortel. Donc c'est un réel sujet pour la santé des femmes. Cécile, 100% des cancers du col de l'utérus sont HPV induits, mais si je suis infectée par HPV, est-ce que je vais forcément avoir un cancer du col de l'utérus?
Alors tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être parmi vous et puis de pouvoir parler d'un sujet extrêmement important et qui anime pas mal de débats à l'heure actuelle. Alors moi, je suis anatomopathologiste, donc je regarde les cancers au microscope. Donc, pourquoi je me suis intéressée à cette pathologie, c'est que j'en avais un peu assez de voir des cancers qui pouvaient être évitables et qui étaient associés à un virus. Alors, on a créé une consultation qui s'appelle COMPAP et cette consultation est dédiée à la prise en charge des patients qui ont des cancers liés au papillomavirus. Et c'est dans le cadre de cette consultation que je suis en lien avec les différents cliniciens, gynécologue, ORL, urologue, radiothérapeute, plein de différentes spécialités qui sont face à des patients qui ont des cancers liés à l'HPV. Alors la question, quand on est infecté par un papillomavirus, tout d'abord, la première chose qu'on doit savoir, c'est est-ce qu'on est infecté depuis longtemps ou pas? Parce que c'est la chronicité de ce portage du papillomavirus qui est un facteur de risque éventuel de faire des lésions tout d'abord de bas grade, puis de haut grade, puis éventuellement d'un cancer. Et cette éventualité, elle est minime par rapport au moment où on est contaminé. Autrement dit, quand on est porteur d'un HPV, on a 90% de chances d'être guéri très rapidement, dans les mois qui suivent l'infection, par le système immunitaire, et donc ça ne sera qu'un passage d'infection. Dans très peu de cas, on peut avoir un portage chronique et donc avoir les lésions dont je viens de vous parler.
Et est-ce que le cancer du col de l'utérus est la seule pathologie qui peut être causée par le papillomavirus ?
Alors ça, c'est très important. Puisque vous avez parlé de lésions et de pathologies des hommes et des femmes, donc nécessairement, ça touche d'autres organes. En fait, et c'est pour ça que c'est très important de ne pas parler du papillomavirus comme étant associé uniquement et seulement au cancer du col de l'utérus, on peut le retrouver dans des cancers de la vulve et du vagin, dans des cancers de l'anus, chez les femmes et chez les hommes, et puis dans les cancers de l'oropharynx. Alors on peut le retrouver aussi dans les cancers du pénis, de façon infinitésimale dans les cancers de l'œsophage, mais c'est très important en effet de ressouligner que dans les cancers de l'oropharynx, ce mot difficile qui est en fait le fond de la gorge, qui est au niveau des amygdales, eh bien c'est principalement chez les hommes qu'on va le retrouver.
Donc si je comprends bien, le papillomavirus ne touche pas que les femmes, mais les hommes aussi sont concernés. Mais il existe les préservatifs pour se protéger des IST. Donc on pourrait éviter le cancer chez les hommes et aussi chez les femmes, non ?
Bien évidemment, utiliser un préservatif lors d'un rapport sexuel est tout à fait indispensable pour se prémunir d'une contamination contre une IST. Cependant, il a été montré que le papillomavirus est un petit virus qui peut être déjà transmis lors des préliminaires ou des caresses sexuelles. Donc, il ne suffit pas pour prémunir de façon à 100%.
Et dans le couple, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut éviter d'avoir des rapports sexuels quand on a une infection HPV ?
À l'heure actuelle, il n'y a aucune recommandation qui préconise un arrêt des rapports sexuels. On ne sait jamais finalement quand est-ce qu'on a été contaminé, qui a contaminé. Donc, le fait d'une découverte d'une infection par HPV n'est pas associé à des recommandations de comportement de sexualité dans le couple.
Et on sait aujourd'hui qu'il est difficile de parler d'une IST sans stigmatiser, car plus on a de partenaires, plus on augmente le risque d'être en contact avec HPV. Et pour vos patientes et patients infectés et dont le diagnostic vient de tomber, comment est-ce que vous les accompagnez ?
Par cette consultation, on va accompagner les patients qui ont eu un cancer et qui, de façon bénévole, veulent être suivis au long terme. Mais de façon générale, ce que l'on propose, en tout cas dans notre hôpital, c'est vraiment de comprendre, de séparer le fait qu'on puisse avoir un cancer et puis le fait qu'on puisse avoir une infection par HPV. Parce qu'il y a tout un accompagnement psychologique qui est important et de culpabilisation. Donc, par le fait d'aborder finalement le cancer qui est traité, puis cette infection qui est dans le cadre des IST, mais qui est un peu du pas de chance quand ils donnent des cancers, eh bien ça permet d'accompagner plus sereinement les patients, de leur laisser poser les questions avec des personnes spécialisées dans les infections, qui sont des infectiologues, qui sont des psychologues, qui sont finalement de séparer vraiment les deux questions et d'aborder la question de l'infection plus tard. Alors, en tout venant aux patients, ben, la première chose qu'on leur dit, c'est de déculpabiliser. Et puis, on entend beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions qui sont sur lesquelles eh ben, il faut qu'on avance. Et ça, c'est en faisant de la recherche qu'on pourra avoir de plus en plus de réponses.
Quelles sont les questions ?
Ben, les questions, c'est quand est-ce que j'ai été contaminée ? Qui m'a contaminée ? Pourquoi je suis contaminée ? Est-ce que je vais avoir tout de suite un cancer ? Donc, toutes ces questions-là, on commence à avoir des réponses peu à peu, puis il y en a, on n'a pas du tout de réponse. Quand est-ce que j'ai été contaminée ? Pendant un rapport, mais avec qui ? Un des partenaires et parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la contamination, on est contaminé, mais personne ne le sait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe clinique. Quand vous avez un rhume, vous le savez. Voilà. Et là, une infection par papillomavirus, on sait qu'on a été infecté à un moment donné parce que des mois, mais plutôt des années plus tard, on a des lésions qui peuvent être totalement bénignes, comme des papillomes, des condylomes, ou des lésions qui sont considérées dans la gamme des pré-cancers. Et c'est à ce moment-là où, quand on fait un test HPV et qu'on voit qu'on est infecté. Donc, cette notion d'infection, elle peut arriver vraiment des années après le moment de la contamination. Donc la première question, ça a été, mais quand est-ce que j'ai été contaminée? Puis la deuxième question, c'est, ah bah forcément, l'autre me trompe, ça fait vraiment partie des choses très dommageables. Déjà, quand on apprend qu'on a des propres lésions, d'avoir des doutes sur l'autre, on avance aussi et on s'aperçoit que, par exemple, des femmes qui ont eu une infection à un moment donné peuvent ne pas avoir de portage pendant un petit bout de temps. Puis, réapparition de l'HPV au moment d'un stress, d'une fatigue, d'une baisse d'immunité, plein de choses comme ça qui font partie de la vie de tout le monde. C'est-à-dire, et là, il y a une résurgence d'une infection qui était latente et non visible, ou en tout cas non détectée pendant longtemps, et qui n'a rien à voir avec une réinfection. Donc, tout ça est très compliqué, et la nécessité là, c'est de dire qu'on ne sait pas tout, et le dire au couple, pour pas que ça soit un sujet de stigmatisation fort. Et on sait très bien qu'il y a des couples qui se retrouvent devant des véritables souffrances.
Ok, très bien. Et justement, vous avez dit que parfois, on ne sait pas pourquoi le virus peut être réactivé ou aussi, est-ce qu'on peut savoir déjà quels sont les facteurs qui peuvent augmenter le risque déjà d'être infecté par HPV ?
Typiquement, ça fait partie des questions qu'on ne connaît pas très bien et pour lesquelles on a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, le fait qu'à l'heure actuelle, vous savez que les femmes, pour retrouver une infection par HPV chez les femmes, avant 30 ans, on va aller faire un frottis. Parce que là, on ne va pas chercher un portage éventuel et éventuellement un portage chronique. Parce qu'on sait que les femmes entre 25 et 30 ans ont un portage qu'on va très significativement important. Et du coup, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes à qui on va dire « vous avez un HPV », alors qu'on sait, et c'est pour revenir au début de notre conversation, sur le fait que ça va disparaître et on va guérir tout seul. Donc, ce n'est pas la peine de stresser tout le monde en retrouvant de l'HPV et en disant, alors qu'on sait très bien que c'est pendant la rentrée dans la sexualité qu'il y a de l'HPV et qu'on rencontre différentes personnes. Et voilà. À partir de 30 ans, on va faire des tests HPV. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va retrouver ce portage chronique. Autrefois, on ne le faisait pas. Donc, il y a plein de données qu'on n'a pas parce qu'on ne le faisait pas. Ces données-là, on va les recueillir maintenant auprès des femmes qui vont être suivies entre 30 et 65 ans, et là, on va pouvoir regarder justement ces résultats de présence ou non du papillomavirus chez les femmes qui étaient suivies totalement autrement. On ne recherchait pas le papillomavirus, on cherchait les lésions avec du frottis.
Et sur la question de la santé environnementale, est-ce que la survenue du papillomavirus est liée à des facteurs environnementaux ?
Alors, je n'ai pas lu ça. Après, si l'environnement, c'est la sexualité, certainement, il y a eu des modifications de la définition du couple, la définition aussi de la sexualité de la femme. Donc ça, c'est l'environnement de façon générale. Après, on a trouvé du papillomavirus sur une des momies examinées il n'y a pas très longtemps. Donc ce papillomavirus, il est présent depuis longtemps dans l'écosystème humain.
D'accord.
Et puis, on va le retrouver aussi dans tous les pays. Donc, c'est quelque chose d'assez universel pour l'humanité. Il n'y a pas de passage entre les animaux et l'humain. Il s'appelle HPV.
Papillomavirus.
Voilà, humain. Human.
Papillomavirus.
Voilà.
Très bien. Merci pour toutes ces réponses, Cécile, qui appelle maintenant à une grande question. C'est celle de la protection contre ces papillomavirus.
Vous arrivez à la fin de la première partie de cet épisode. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Et si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, donnez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.